Amen. Il y a deux semaines, j'ai entamé une réflexion sur les voleurs de potentiel. Ma conviction profonde, c'est que Dieu a investi massivement dans son Église. Ah, il a investi de manière glorieuse au travers de son Fils Jésus, qui nous a donné le plus beau des dons, son sacrifice, qui nous offre le salut. Mais Dieu n'en est pas resté là. Il a fait déjà, et c'était bien le plus important, mais il a aussi investi des talents. Et c'est cette parabole magnifique des talents que nous connaissons, Matthieu 25, où Jésus raconte cette histoire de ce maître qui a confié des talents, de précieux talents à des serviteurs. Et c'est toute l'image de ce que Jésus, de ce que Dieu a investi dans l'Église. Il a investi massivement. Et nous avions vu que cet investissement, quelque part, il ne nous appartient pas. Dieu a investi, mais il nous a dit, il nous fait comprendre que nous aurons des comptes à rendre. Parce que le désir de Dieu, c'est que cet investissement se multiplie, c'est que cet investissement grandisse au sein de son peuple, c'est que son investissement grandisse. Et on connaît cette parabole, à un, il a donné 5, et puis il a multiplié, et il s'est retrouvé avec 10. À un, il a donné 2, il s'est retrouvé avec 4. Et puis il y en a un qui en avait qu'un, il l'a enterré, et puis ça s'est mal passé pour lui. Alors nous rendrons des comptes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de mettre cette parabole, et c'est ce que nous avions fait la dernière fois, cette parabole des talents en parallèle avec l'histoire de Gédéon. Et quand on met cette parabole et l'histoire de Gédéon, on se rend compte que Dieu a investi dans Gédéon. On peut en douter de par son cursus, mais ma conviction profonde, c'est que Gédéon avait reçu des choses de la part de Dieu. Il va lui dire plusieurs choses, il va lui dire « Vaillant guerrier », il va lui dire « Va avec cette force que tu as ». Ça nous donne le sentiment, malgré tout, que malgré la perception qu'on peut avoir de ce texte, que Gédéon a reçu un investissement de la part de Dieu. Maintenant, que va-t-il faire ou comment les choses vont se passer? Il va prendre conscience de son investissement, mais on va se rendre compte que malgré le fait qu'il prenne conscience, ça ne va pas être simple pour Gédéon. Et finalement, l'histoire de Gédéon, nous pourrions nous l'approprier ce matin en disant « Mais Seigneur, j'ai tellement reçu, mais combien j'ai du mal à mettre en œuvre le potentiel que tu as mis en moi, combien j'ai du mal à faire fructifier l'investissement. » Et en même temps, je me dis « Seigneur, il y a quand même quelque chose de capital. Tu nous dis que, Seigneur, on va devoir rendre compte pour ça. » Et il y a quelque chose de pressant sur mon cœur que je veux partager depuis quelque temps sur les voleurs de potentiel, parce que ma conviction, c'est que Gédéon était confronté à un problème profond, à même plusieurs problèmes profonds, à des voleurs de potentiel, qui amenaient Gédéon à lutter avec l'investissement divin en lui. Peut-être il souhaitait l'investir, il souhaitait le faire multiplier, mais combien ça a été compliqué. Et on connaît l'histoire de Gédéon. La dernière fois, nous avions mis plusieurs accusés sur les bancs, puisqu'on parle de voleurs. Et nous en avions vu plusieurs, nous avions vu la peur. Et finalement, lorsqu'on regarde le texte et quand on regarde comment Dieu parle à Gédéon, on se rend compte que peut-être la peur, on pourrait penser que Gédéon était apeuré quand Dieu va l'appeler et va lui dire « Vaillant héros !» Et souvent, on a cette image d'un Gédéon qui est au fond de son pressoir en train de frapper le froment. Et on se dit « Gédéon est apeuré » et Dieu vient le voir et va lui dire « Vaillant héros !» Comme un peu pour bousculer Gédéon et lui dire « Hé, Gédéon, cesse d'avoir peur !» J'ai même entendu une fois que finalement, Dieu pouvait être sarcastique. Vous croyez que Dieu est sarcastique? Dieu n'est pas moqueur. Dieu n'est pas sarcastique. Et finalement, mon sentiment, c'est que Gédéon était loin d'être un homme peureux. D'ailleurs, son attitude nous amène à penser que Gédéon était en résistance par rapport à Madian. Gédéon n'avait pas baissé les bras. Le fait qu'il frappe le froment dans un réservoir ou dans un pressoir m'invite à penser que Gédéon n'avait pas baissé les bras. Au contraire! Il se battait à sa façon, et dans le pressoir, il luttait à sa manière, il refusait d'abandonner. Souvent, on a eu cette image d'un Gédéon apeuré qui tremblait comme une feuille, mais permettez-moi de penser que à mon sens, et vu le contexte et l'ensemble et tout le changement qui va s'opérer dans l'histoire de Gédéon, Gédéon était loin d'être un homme peureux. Quand Dieu va appeler Gédéon, il va lui dire « vaillant guerrier », il y a d'autres traductions, et une autre traduction m'a interpellé. Il dit « guerrier sans peur ». Dieu ne se trompe pas quand il appelle Gédéon et qu'il lui dit « vaillant guerrier », quand il lui dit « guerrier sans peur », quand il l'appelle, il lui dit, il l'interpelle sur ce qu'il est, et Gédéon ne rechigne pas à cela. Il ne contredit pas l'Éternel sur le fait qu'il soit courageux. Alors on a souvent mis la peur sur le banc des accusés, et finalement, quels peuvent être les autres accusés? Si la peur n'est pas la raison qui limitait le potentiel de Gédéon, quels peuvent être les autres? Et j'en avais partagé deux autres. Le premier, c'est notre perception de nous-mêmes. Vous savez, on n'est jamais le mieux placé pour savoir ce à quoi on est appelé. On n'a pas forcément le regard objectif sur nous-mêmes. On est trop dedans, si je puis dire. Et par moments, il nous faut un miroir qui vient nous renvoyer la réalité de ce que l'on est. Parce qu'on ne se voit pas réellement tel que l'on est. Par contre, celui qui nous connaît mieux que personne, lui sait. Et c'était le cas pour Gédéon. Gédéon était un homme courageux qui se battait dans un pressoir. Il frappait le froment et Dieu voyait un guerrier qui était en train de s'étioler au fond d'un pressoir alors qu'il l'appelait à combattre Madian sur le champ de bataille. Il a fallu que Dieu vienne révéler à Gédéon sa place réelle. Il a fallu que Dieu vienne à Gédéon et lui dire « Gédéon, tu n'es pas un fermier. Gédéon, tu n'es pas appelé à battre le froment. Tu es appelé à battre Madian. Tu n'es pas appelé à rester dans un pressoir. Tu es appelé à combattre sur le champ de bataille. C'est ça ton cœur d'appel. » Et Gédéon perdait son temps. Et il a fallu que Dieu révèle à Gédéon quelle était sa place réelle. Et c'est ce que Dieu va faire. Il va lui dire, mais Gédéon, tu es un vaillant guerrier. Alors va combattre. Et le troisième suspect, c'est la comparaison. Lorsque Dieu va interpeller Gédéon, va lui dire, mais va avec cette force que tu as. Gédéon va rentrer dans une succession de comparaisons. Il va dire, mais tu sais, ah Seigneur, ma famille est la plus petite de Manassé, et puis là on les entend, et puis moi je suis le plus petit de ma famille. Et vous savez ce qu'il est en train de faire, c'est Gédéon, c'est de l'auto-dénigrement. Au lieu de voir le potentiel qui est en lui, au lieu de voir ce qui est positif en lui, au lieu de rentrer dans une comparaison positive, parce qu'il y a de la comparaison positive, Gédéon est en train de se dénigrer. Et finalement, il est en train de couper le potentiel qui est en lui. J'ai vu, et la comparaison aussi nous amène à avoir plutôt le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et pire, la comparaison amène Gédéon à voir ce qu'il n'a pas. Et vous allez en convenir, quand on se compare à des personnes, on se compare sur ce qu'on n'a pas et ce qu'on voit chez les autres. Non ? Ouais ? Rarement, on se compare dans le sens inverse. Ah, mais moi j'ai ça, lui il l'a pas. Hein? Alors des fois c'est en raisonnant et en se disant, ah oh, finalement c'est vrai, le Seigneur m'a quand même béni. Mais généralement quand on se compare, mes frères et sœurs, c'est juste pour mettre en évidence ce qu'on n'a pas. Et vous savez ce qui est terrible dans ce texte, c'est que Dieu vient juste de lui dire, Gédéon, va avec cette force que tu as. Qu'est-ce que dit Gédéon? Laquelle? La comparaison l'amène à ne pas voir le potentiel qui est en lui. Et la comparaison, mes frères et sœurs, j'aimerais vous le redire, c'est l'un des pires voleurs de potentiel. Et il a fallu que Dieu prenne patience avec lui pour l'amener à réaliser qui il est et ce à quoi il est appelé. Ce matin, j'aimerais aller plus loin dans les voleurs de potentiel avec vous. Parce que nous en avons vu quelques-uns, mais il en reste. Et peut-être sur le banc des suspects ce matin, nous pourrions mettre un nouveau suspect. Et j'ai appelé ce suspect les circonstances. Parce qu'autour de Gédéon, il y avait des circonstances. Gédéon aurait pu en parler lui-même et il en a parlé. Quand l'ange de l'Éternel vient le voir, il lui explique que voilà, on est sous la pression dominante de Madian. Et c'était vrai. Quand Gédéon parle de cette situation, la Bible nous éclaire un peu plus sur la réalité de ce que c'était. Israël était sous l'oppression madianite depuis plus de 7 ans. Et cette pression était là et venait les accabler. Et vraiment, voyez Madian comme un voleur. Parce que dès que Israël se mettait à l'œuvre, dès que Israël venait construire, entreprenait quelque chose, de suite derrière, Madian venait et ravageait tout. À tel point qu'ils n'avaient plus d'animaux, à tel point que toute leur récolte était volée. L'ennemi était décrit comme un nuage de sauterelles qui vient tout ravager, tout détruire. Et c'est ce que vivait Israël et avait vécu Israël pendant plus de 7 ans. Et si on avait posé la question à notre Gédéon, on lui avait dit « Mais Gédéon, pourquoi vous n'arrivez pas à vous développer? Pourquoi tu n'arrives pas à multiplier les talents que Dieu t'a donnés? Pourquoi tu n'arrives pas à aller plus loin? Pourquoi ton potentiel reste ce qu'il est ?» Gédéon aurait certainement répondu « C'est la faute à Madian. Tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, il vient le prendre. L'ennemi vient tout détruire, tout ravager. » À tel point, regarde l'ange de l'Éternel, je suis en train de frapper le froment dans un pressoir pour que Madian ne me le vole pas. Gédéon aurait pu mettre lui-même sur le banc des accusés Madian en disant « C'est les circonstances, c'est Madian qui me vole tout mon potentiel, c'est Madian qui me prend tout. » Seulement, je vais vous dire une chose, et c'est mon premier point ce matin. C'est que l'ennemi de notre âme se sert des circonstances. Il s'en sert et il applique une stratégie particulière, une stratégie que moi, à mon sens, j'ai appelée l'arbre qui cache la forêt. Connaissez cette expression ? L'arbre qui cache la forêt. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que si on avait posé la question à Gédéon, quand on lui avait posé, mais quel est le voleur de potentiel? Il aurait dit, probablement, c'est Madian. Et vous savez, l'ennemi se sert des circonstances pour nous détourner du vrai problème, en mettant un arbre gigantesque juste devant notre nez. Et pour le coup, c'est Madian cet arbre. Comprenez? L'ennemi de notre âme se sert d'un élément de pression. Et pour le cas de Gédéon, c'est Madian. Puissant, armé, oppressant. Au point que Gédéon ne voit qu'un vrai problème, qu'un vrai voleur, Madian. Mais la réalité du problème, elle est derrière. La réalité du problème, le véritable voleur est caché devant cet énorme arbre qu'est Madian. Arbre qui cache la vue d'Israël, arbre qui cache la vue de notre ami, arbre qui l'empêche de voir la réalité, qui l'empêche de voir la forêt. La stratégie du diable, et c'est le cas pour Israël, c'était de mettre un ennemi puissant, oppressant, afin qu'Israël ne voit qu'un seul voleur et se dise « L'ennemi, pour nous, c'est Madian. » Seulement, le véritable voleur, ce n'est pas Madian. Et lorsqu'on lit le texte un peu plus attentivement, on se rend compte qu'il y a un autre voleur. Et c'est Gédéon, c'est dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 1er, que nous le voyons. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaisait à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Quand il est dit que l'Éternel livra Israël entre les mains de Madian, c'est qu'il a lâché le contrôle et il a laissé l'ennemi, le diable. Il a dit, ils ne veulent pas de moi. Juges chapitre 6, verset 1er. Et dans ce contexte-là, le diable vient avec Madian attaquer Israël, opprimer Israël, mettre un arbre énorme devant eux pour les détourner du véritable problème. L'oppression est telle. Et dans l'esprit de Gédéon, comprenez ce qui se passe. Gédéon n'a pas de mots pour le véritable problème. Il n'en parle pas. Ça n'apparaît même pas dans son esprit, dans ses explications. Mais le véritable problème, le véritable voleur, c'était l'idolâtrie qu'il y avait au milieu du peuple d'Israël. La preuve en est, à partir du moment où Dieu va susciter Gédéon, la première chose que Dieu va demander à Gédéon, c'est de détruire l'autel de Baal, qui n'était pas dans son village, mais qui était sur les terres de sa famille. Madian est tellement énorme qu'il ne voit pas que le voleur de potentiel est sur son terrain, tellement aveuglé par l'oppression que l'ennemi vient mettre, l'arbre qui cache la forêt, c'est l'autel de Baal qui est sur son terrain à lui. Et l'ennemi est tellement fin, la stratégie est tellement forte, l'ennemi est tellement oppressant que Gédéon ne voit rien d'autre que Madian qui l'attaque et qui le vole. L'arbre qui cache la forêt. C'est une stratégie que l'ennemi utilise pour nous détourner du véritable problème. Et Gédéon ne voyait qu'un problème, Madian. Mais jamais Gédéon n'a vu le problème de Baal sur son terrain. Tous les matins en se levant, il le voyait. Tous les soirs en rentrant du boulot, il y allait. Quand il allait travailler dans les champs, il le voyait. Rentrer des champs, il le voyait. C'était devant ses yeux. Mais parce que Madian, parce que la stratégie de l'ennemi était tellement forte, l'arbre était tellement gros qu'il ne l'a jamais vu. Et vous savez, il a fallu que Dieu révèle à Gédéon le problème parce qu'il ne le voyait toujours pas. Alors que Dieu est en train de parler, lui dire « Vaillant héros », la première des choses que Dieu va demander à Gédéon, c'est de déboulonner l'autel de Baal qui était sur le terrain de sa famille. Je rencontre beaucoup de gens, beaucoup de personnes, et bien souvent lorsque je discute avec elles, je vois souvent un magnifique potentiel. Je me réjouis de voir ce que Dieu a investi dans son Église. Je me réjouis de ce que Dieu a investi dans son peuple. Mais vous savez, au fur et à mesure de la conversation, à un moment donné, vous entendez « mais ». Ah, « mais ». Et là, les cœurs s'ouvrent et les personnes s'expriment et commencent à expliquer que « mais, il y a ça dans ma vie ». Dieu, quand il nous amène à la conversion, fait un travail remarquable en nous. Il change notre cœur, il nous transforme. Mais bizarrement, souvent, je me suis fait cette réflexion. Certaines choses demeurent. Et par moments, ce n'est pas plus qu'un autel. Et cet autel est bien présent et cet autel vient écraser, vient détruire toute notre espérance, toute notre joie de servir. Cet autel est tellement là, au milieu, chez nous, dans notre terrain, qu'il vient écraser notre volonté de servir. Pris par la culpabilité, par la condamnation, nous sommes accablés. Et à l'image de Gédéon, au fur et à mesure, lorsqu'on regarde notre vie, parce que l'accusateur de notre âme en rajoute, il nous amène à dire, « T'as vu, il y a l'autel de Baal dans ta vie, tu ne feras jamais rien pour Dieu. » Il y a des trésors qui sont enfouis dans la terre parce que des autels sont plantés en plein milieu de nos vies. Et ces autels-là sont destructeurs, ces autels-là sont des voleurs de potentiel. Le péché, mes amis, mes frères et sœurs, est le plus grand voleur de potentiel. Ah, je ne dirais pas amen. Et c'est une tragédie quand je rencontre des jeunes ou quand je rencontre des personnes plus âgées me disant et voyez l'image, il y a un autel de Baal en plein dans ma vie. Et finalement, on a ce sentiment que l'on n'a le droit de rien. On n'a pas le droit d'aller plus loin, on n'a pas le droit de servir, on n'a pas le droit d'aller plus loin parce que repris dans notre âme, et l'accusateur s'en sert pour un peu plus nous accabler et nous amener à penser que ce potentiel, il va mourir à l'intérieur de nous sans qu'il émerge. Il y a une frustration. Il y a une tristesse dans les chrétiens qui vivent ce poteau, qui vivent cet autel en plein milieu de leur vie. Et c'est comme un boulet qui étreint, qui tient les ailes que Dieu veut déposer, les talents, les trésors que Dieu a investis dans nos vies. Et ça nous tient, ça nous écrase. Et on est comme enchaîné. On voudrait servir, on voudrait donner, on voudrait dire « Seigneur, sers-toi de moi ». Mais il y a ça qui est là, qui nous retient comme une laisse. Et spirituellement, combien c'est difficile d'avancer. Et on se dit, Seigneur, mais combien de temps ça va durer? Parce que par moments, et vous allez être d'accord avec moi, il y a certains autels, lors de notre conversion, ça tombe de suite, c'est d'une facilité, on se donne à Jésus, et c'est juste incroyable. On a parfois même pas besoin de faire d'efforts, ça tombe tout seul. Et puis des fois, il y a des autels, ils persistent au milieu de notre vie, et on lutte avec ça. et ça nous tient assujettis. Il y a ce texte dans Jacques qui dit simplement, mais chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui-même. Voilà l'autel de Baal. Et c'est comme quelque chose de lourd à porter, et je vois tellement ça. Et en même temps, vous savez, il y a un discours tellement démagogique. Ah ben, s'il y a cet autel dans ta vie, ben, t'as qu'à l'enlever. Si c'était si simple. Si c'était si simple. Quand Gédéon va entendre cette parole de Dieu, vous voulez bien qu'on lise ce texte ? Juges chapitre 6. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. » Et notez bien ça, ça appartenait à sa maison. Ça appartenait pas au village, c'est pas le village qui est venu installer l'autel. Non, cet autel appartenait à son père. On poursuit. Excusez-moi. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat l'idole qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur, notez bien, sur le haut de ce rocher. Donc c'était un point culminant. Un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu lui offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait, et notez bien ça, la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville furent levés de bon matin, et notez bien ça, dès la première lueur du jour, voici, l'autel de Baal était renversé. Ils l'ont tous vu. L'idole placée dessus était abattue et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent les uns les autres, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu l'idole qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour-là, on donna le nom de Gédéon, à Gédéon le nom de Jérubbaal en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. Comme je l'ai dit, renverser l'autel pour libérer notre potentiel, c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Et je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé. Gédéon est de bonne foi. On a lu ce texte, mais le texte poursuit, et il poursuit par ça. On lui a donné le nom de Jérubbaal, il a détruit l'autel. Et regardez, l'arbre qui cache la forêt, il revient. Gédéon est en train d'amener un réveil dans son pays. Il est en train de détruire les autels, il est en train de détruire les idoles. Qu'est-ce que fait l'ennemi? Aussitôt, il lance une charge. Verset 33, « Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent et ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. » Gédéon, poussé par Dieu, commence à détruire les autels en Israël. Qu'est-ce que fait l'ennemi? On va leur mettre un bon coup d'oppression, histoire qu'ils se détournent du vrai problème. Vous le voyez là, l'arbre? Et c'est pas un petit, hein, c'est tout Madian. On va y mettre une bonne couche, histoire de détourner là, le vrai, véritable problème. Et ça aurait pu marcher. Mais vous savez quoi? Il y a quelque chose de glorieux dans ce que Dieu est en train d'entreprendre. Parce que Gédéon a renversé les autels à Baal. Dieu est en train de faire une œuvre incroyable. Il est dit au verset 34, « Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu et il sonna de la trompette. Et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. » Moi, j'aimerais vous dire une chose. À partir du moment où Gédéon va faire tomber l'autel de Baal, Il va libérer le potentiel qui est en lui. L'Esprit de Dieu va tomber sur lui et il va devenir le leader qu'il n'a jamais été. Le potentiel était en lui, mais le Saint-Esprit va venir à la rescousse de cet homme pour lui donner la force dont il a besoin, pour conduire le peuple à la victoire. Quand Baal est renversé, le potentiel est libéré. Et vous savez, des fois, vous allez être d'accord, par moment, on prend les bonnes décisions, on fait les bons choix, on renverse les idoles. Et puis d'un coup, on a un coup d'oppression, on ne sait pas d'où ça vient, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je marche dans tes voies, je décide de marcher après toi, et d'un coup, l'opposition vient. C'est normal. Mais ce n'est pas le fait que l'ennemi vienne t'attaquer qui est important, c'est la finalité. Tu seras vainqueur. Parce qu'en renversant la statue, parce qu'en renversant l'autel, l'Esprit de Dieu va venir aussi à ton secours et le potentiel qui est en toi va enfin se libérer et s'exprimer. Et c'est à ce moment-là que tu seras vainqueur. Vous savez, ce n'était pas si évident que ça pour Gédéon de renverser l'autel. On l'a lu. Gédéon, dès que Dieu lui dit « va et détruis l'autel », il pense à un truc. « Oh là là, papa, qu'est-ce qu'il va dire ?» Et le village. Et je peux vous dire une chose, c'est que dès les premières secondes où il entend ça, il sait ce qui se passe, il a très vite compris qu'il risquait sa peau en allant détruire l'autel. Il l'a su de suite. C'est pour ça que je vous dis que Gédéon, il est loin d'être peureux. Parce qu'il y est quand même allé. Maintenant, on pourrait dire, ah mais il y est allé de nuit. Vous savez quoi? Souvent, on interprétait ça comme de la lâcheté. Mais moi, je vais vous dire, c'était de la sagesse. Parce que l'autel de Baal, on l'a lu ensemble, il était tout en haut de la montagne. Tout le village le voyait. Sa famille habitait juste à côté. À partir du moment où, s'il y était allé deux jours, la première pierre qu'il allait enlever allait signer son arrêt de mort. Et alors là, le projet de Dieu délivrer son peuple, mince, le libérateur, il s'est arrêté à la première pierre. Mais vous savez quoi? Par moments, face aux Baals qui sont dans nos vies, et je vais amener une notion tellement importante ce matin. On reçoit, le Saint-Esprit nous parle par rapport à ces Baals qui peuvent être éventuellement dans nos vies. Il nous dit, il faut que ça disparaisse. On l'entend, et puis vous savez, des fois, on veut saisir cette parole et on dit, Seigneur, je vais l'enlever, mais vous savez, on va très vite, on va trop vite par moments. Et on oublie de réfléchir, on manque de sagesse. Si Gédéon n'avait pas réfléchi à ce qu'il faisait, avait répondu de suite à l'appel de Dieu en disant « Je vais enlever l'autel de Baal », il serait mort. Parce que sa famille ne lui aurait jamais laissé le temps. Vous savez ce que c'était que ces autels? C'était des trucs énormes. Par moments, ça pouvait faire jusqu'à 1 mètre de haut sur 10 mètres de côté. Les stèles étaient juste énormes, c'était des blocs monolithiques, j'en ai un, je vais vous montrer. Et pour déplacer ça, à partir du moment où il allait juste commencer à mettre une corde autour de ce truc, on allait lui mettre une corde au cou. Et je pense que la réaction, l'attitude de Gédéon est intelligente. Et ce matin, vraiment, je ne voudrais pas vous dire et venir avec un discours qui dit simplement, voilà, arrête les idoles. Je trouve au travers de l'exemple de Gédéon, on voit des choses qui sont tellement pertinentes pour vaincre Baal, ces idoles qui sont devant nous. Et l'une des premières choses que Gédéon va faire, c'est réfléchir. Par moments, on manque de sagesse. Et je peux vous dire une chose, on va tellement vite que vous allez comprendre ce que je veux dire. Par moments, on sent le Saint-Esprit qui nous interpelle, il y a des idoles. Malheureusement, il y en a par moments dans nos vies. Et ces idoles sont là, on sent le Saint-Esprit qui nous interpelle. Et on y va, on va dire, je vais l'enlever de suite. Et vous savez quoi, bien souvent, parce qu'on s'y prend tellement vite et tellement maladroitement, qu'au final, elle y reste, cette idole. Et vous savez quoi, il y a un double sentiment, parce qu'on a eu le sentiment d'avoir une parole de Dieu qui nous invitait à l'enlever, et puis on n'y est pas arrivé. Alors en plus, il y a un sentiment d'échec qui vient sur vos vies. Et là, vous n'en sortez plus. Il y a des combats, malheureusement ou heureusement, qu'il faut mener avec intelligence. Dieu a dit à Gédéon de l'enlever, certes, mais il ne lui a pas dit comment faire. Il va lui dire deux choses. Prends 2 taureaux, pas mal. Il fallait au moins ça pour déplacer, faire tomber ce truc. Mais ce que j'aime dans la réflexion de Gédéon, c'est qu'il craignait la réaction de son père, il craignait la réaction du village, alors il va y aller de nuit. Parce que Dieu ne se cantonnait pas à lui dire d'enlever un autel, il lui disait aussi d'en bâtir un nouveau. Ah ouais, on casse et on reconstruit derrière. La tâche était juste gigantesque. Et si Gédéon n'avait pas réfléchi, il ne serait jamais allé au bout de ce que Dieu lui demandait. Et je peux vous dire, des fois, quand il y a un bloc monolithique dans nos vies, on veut l'enlever et on y va trop vite. Et à un moment donné, je veux vraiment croire que Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Agis avec sagesse. Agis avec sagesse. Demande au Dieu même de t'éclairer, de te montrer comment faire. Parce que tu sais qu'il y a des enjeux, parce que tu sais que tu veux bien l'enlever ce bloc, mais c'est tellement compliqué. C'est vraiment pas simple. Tu as envie de le faire, mais et ça te presse sur ton cœur. Mais Dieu veut te dire ce matin, réfléchis. Ne te précipite pas. Ça, c'est la première chose que j'ai dit on va faire. Deuxième chose que j'ai dit on va faire. Le texte dit une chose juste magnifique. On peut revenir à la suivante. Après. Voilà. Il va exécuter ça de nuit, non de jour. Il a réfléchi, il s'est dit, si je veux avoir le temps de faire le boulot, il faut y aller de nuit. Très bien. Mais regardez ce qu'il va faire. Et ça, Dieu ne lui dit pas. Il va prendre 10 hommes avec lui. Ça m'a interpellé parce que des fois, il y a des blocs, il y a des idoles dans nos vies qu'on ne pourra jamais déplacer tout seul. Alors il y aura l'aide du Seigneur, certes, mais on a aussi besoin de l'Église. L'Église est aussi dans ses combats. On l'oublie bien souvent, mais il y a ce texte dans Jacques chapitre 5, verset 26, qui dit « Mais confessez vos péchés mutuellement. » S'il y a une raison à cela, à l'existence de ce texte, c'est qu'à un moment donné, par moment, face aux autels de Baal qui sont bien ancrés dans nos vies, il nous faut du secours. Par moment, il nous faut l'aide de la prière. Par moment, il faut trouver quelqu'un à dire « Je combat, c'est dur, c'est une lutte. » Et vous savez, des fois, on n'est jamais, et je veux vraiment croire ça au mieux nous, mais on n'est jamais fiers d'avoir un bloc de Baal dans nos vies installé sur le propre terrain. Même à la limite, je peux vous dire, on en a honte, on va le cacher aux frères et sœurs, on ne va surtout pas en parler, parce qu'on vit tellement là-dessus, on a tellement honte que tout le monde voit ça, ou que certains puissent le voir, d'être jugés, d'être accusés, pointés du doigt, mais il y a ça dans ta vie, mais tu n'as pas honte. Mais l'Église n'est pas là pour accuser. Quand ton frère a péché, essaie de le sauver. Essaie de lui tendre une main secourable, prie avec lui, secours-le. Et c'est ce que Gédéon, à mon sens, va faire quand il va voir qu'il y a ce bloc, quand il va comprendre, l'Esprit de Dieu va lui révéler l'horreur, la transgression, le crime d'Israël, la perfidie, la prostitution d'Israël, c'est ce qu'Osée compare lorsqu'Israël va voir un autre Dieu. C'était considéré aux yeux de Dieu comme une prostitution. Et quand Gédéon va réaliser ça, il va convoquer 10 serviteurs, 10 hommes de confiance, parce qu'il fallait qu'ils aient confiance en eux, 10 personnes sur qui ils pouvaient se reposer, parce que la tâche était bien au-delà de ses propres forces. Même s'il avait 2 bœufs pour l'aider, il fallait d'autres hommes pour l'accompagner. Et par moments, mes frères et sœurs, on est en train de s'attaquer tout seul à l'autel de Baal et on s'épuise parce que la tâche est trop dure. Galates chapitre 6 nous invite à partager nos fardeaux. Et par moments, vous savez, mes frères et sœurs, c'est aussi partager nos combats. C'est aussi partager la tâche qui est à un moment donné, des fois dans nos vies, de détrôner l'autel de Baal qui règne, bien ancré. Troisième chose, il va se passer un miracle. Pour Gédéon, un miracle juste étonnant. L'autel de Joas, parce que c'est l'autel de son père, Joas. Gédéon va détruire l'autel que son papa a peut-être bâti lui-même. Et cet autel, c'était l'autel du village. Et cet autel, il était tout en haut d'une colline, il était vu de tous. C'était l'autel de la famille de Gédéon. L'autel de Baal appartenait à la famille de Gédéon, appartenait au père de Gédéon. Et il va se passer un truc Je ne l'explique pas, mais pour moi, ça appartient du miracle. Ça appartient de ce que Dieu peut faire. Ça appartient de la grâce de Dieu. Parce qu'à un moment donné, quand nous prenons les bonnes décisions, mon frère, ma sœur, tes craintes, Dieu s'en charge. Quand tu décides de renverser l'autel de Baal, quand tu décides dans ton cœur de le faire et de faire un acte de foi par moment, de renverser l'autel, et tu as des craintes pour ton père, tu as des craintes pour le village, tu as des craintes pour tous ceux qui t'entourent, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser? Dieu va s'en occuper. Celui que Joas, celui que Gédéon craignait le plus, c'est Joas. Il se disait, il craignait son père, il craignait la réaction de son père et il craignait la réaction du village. Mais ce qui est d'étonnant, c'est comment Dieu va tourner, changer la circonstance dans l'avantage de Gédéon. Alors que Gédéon craignait la réaction de son père à qui appartenait cet autel que son père Joas avait bâti, cet autel peut-être que Joas a mis sa sueur, il a mis sa dévotion pendant des années sur cet autel. Cet autel qui appartenait à Joas, Joas va dire, si vous touchez à mon fils, c'est fini pour vous. Waouh! Gédéon, il n'a pas dû en revenir. C'est toi, papa? T'es sûr, tout va bien? Le retournement. Et je peux vous dire qu'il y a des miracles qui se passent comme ça parce que Dieu fait grâce quand tu décides de détruire l'autel de Baal qui est dans ta vie. Ce que tu crains, Dieu le retourne à ton avantage. Parce que Dieu ne nous abandonne pas dans le combat. Maintenant, j'aimerais te dire que Dieu ne fera pas ce que tu as à faire. C'est sûr. Dieu, Gédéon avait besoin de Dieu pour lui révéler quelle était sa place. Il va lui dire, tu es un vaillant guerrier. Gédéon avait besoin d'entendre de la part de Dieu qu'il était armé, qu'il avait une force. Dieu va lui dire, mais par contre, l'autel de Baal, c'est ton histoire, Gédéon. Et c'est à toi de le renverser. Il y a des choses qui t'appartiennent, mais même dans les choses qui t'appartiennent de faire, Dieu viendra à ton secours, mais il ne le fera pas pour autant pour toi. Moi, je veux t'encourager ce matin à réaliser que tu peux vaincre l'autel de Baal dans ta vie. Je ne te dis pas que c'est simple, c'est un combat, mais si tu agis avec sagesse, si tu agis avec l'aide de tes frères et sœurs, sois sûr et certain que Dieu mettra sa grâce dans l'histoire. Parce que Dieu fait grâce et qu'il nous aide à vaincre les autels qui se dressent dans nos vies. Il y a une chose qui est remarquable et je vais revenir juste dessus. À partir du moment où l'autel de Baal va être renversé, Gédéon va être libéré. Il va être libéré du plus grand voleur de potentiel, le péché. Et Gédéon va enfin rentrer dans sa destinée. Qu'il en soit de même pour toi ce matin. Que l'autel de Baal disparaisse. On ne te condamne pas. On ne t'accuse pas. Mais on veut t'amener à réaliser ce matin simplement que l'autel de Baal est en train de voler l'investissement de Dieu dans ta vie. On veut t'amener à réaliser qu'aussi difficile qu'il puisse être à déloger, Dieu va t'aider. Tu n'es pas livré à toi-même. Ce n'est pas simplement une parole, il faut enlever l'autel. Fais-le avec sagesse, fais-le avec l'aide de tes frères et sœurs et l'Éternel viendra tourner ton ennemi à ton avantage. Et celui peut-être même que tu crains le plus va se tourner vers toi, va tendre la main. Parce que c'est ce que Dieu est capable de faire. Alors le potentiel sera libéré dans ta vie. Alors tu rentreras dans la plénitude de ce que Dieu a pour toi. Que ton nom soit loué et béni, Jésus. Amen, Seigneur. On veut réaliser ce matin, encore une fois, que tu as investi massivement dans nos vies. Et on veut laisser aucun voleur nous prendre l'investissement divin. Et on veut en aucun cas laisser l'ennemi nous voler ce que tu nous as donné. Et si peut-être ce matin, au milieu de nous, il y a des frères et sœurs qui sont dans la lutte et dans le combat parce qu'il y a un autel de Baal dressé dans leur vie, je ne sais pas pourquoi il est encore là. Je ne sais pas pourquoi l'œuvre de rédemption, l'œuvre de salut, l'œuvre de transformation, de régénération n'est pas allée au bout. Mais c'est le cas. Par moments, des fois, Seigneur, on a lutté avec des choses dans nos vies. Mais Seigneur, ce matin, tu veux mettre l'accent sur le fait qu'ils doivent disparaître, mais tu ne nous dis pas simplement de nous débrouiller, tu nous montres la marche à suivre, tu nous montres le mode d'emploi, tu nous dis, mais fais-le avec sagesse. Sois aidé, sois porté. Et moi, je ferai le reste. Ce qui te fait peur, je vais m'en occuper. Fais l'acte, brise la chaîne. Et moi, je viendrai tourner les circonstances à ton avantage. Et tu vaincras Madian. Tu vaincras et tu détruiras l'arbre qui cache la forêt. Et tout ce qu'il y a avec. Et tu rentreras dans la plénitude du potentiel que tu as pour ta vie. Alors Seigneur, ce matin, on veut que par ton esprit, tu viennes nous aider à briser les autels dédiés à Baal pour libérer le potentiel que tu as investi dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-nous, donne-nous la force, donne le courage et que les balles tombent et que les autels dédiés à l'ennemi tombent et que ton peuple soit libéré dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Que le Seigneur soit loué et béni.